La belle Madame Levasseur, chapitre 6. L'express passa, croulant la voie, où s'éleva un petit tourbillon de poussière. Alors, sur la porte du bureau, une casquette brodée d'argent appela « Fusier ! Fusier !» L'employé, qui, grelottant, un mouchoir autour du cou, écrivait l'heure au tableau, tendit la tête pour demander « S'il vous plaît, chef ?» « Le tapis, allons, dépêchons-nous » Et le bâton claqua avec un fracas de vitre. « Le tapis, il me laissera bien transmettre avant la dépêche du 15 bis !» Et après un coup d'œil à l'horloge, lentement, de son pas tordu de pied beau, Fusier rentra dans la salle des bagages où le carillon du télégraphe tintait. Au bout de 2 minutes, la porte du bureau se rouvrit et la casquette brodée d'argent reparut. Puis une moustache grognonne, puis un petit ventre en poire de chef de garde banlieue sanglé dans sa tenue des dimanches. Il donna un tour de clé et, tapant au carreau voisin, « Fusier ! Fusier ! Eh bien, ce tapis ! Est-ce pour demain, Fusier ? En v'là un service ! Fusier ! Crée nom de nom ! Fusier ! » « Je transmets la dépêche du 15 bis, » fit une voix. « Envoyez puis prou. Et il est en manœuvre au garage. Nico, alors. Il est au signal. Crée nom de nom, en v'là un service. » Et les mains derrière le dos, sonnant ses clés furieusement, le chef promena sur le quai sa colère. De temps en temps, il roulait un regard piteux de l'autre côté de la voie, vers le hangar de sortie pavoisé, dont les guirlandes de lierre, les plumées de houx, les panaches de sapin et tous les frais trophées aux couleurs de France et d'Angleterre lamentablement s'égouttaient sous la fine tombée de brouillard d'un matin de mars glacial. Soudain, il porta une main à sa bonne oreille, l'arrondit en cornet acoustique. Non, rien. C'était le vent qui ronflait dans les poteaux du télégraphe. Puis il marcha au cadran, lut haut, 10h04, et de nouveau appela « Fusier ! Crée nom de nom, Fusier !» Comme on ne lui répondait pas, il jeta un coup de poing dans le carreau, car il venait d'entendre cette fois la clameur rapprochée du train spécial qui accourait de Paris à toute vapeur. « Le tapis, crée nom de nom ! Ah, c'est pas malheureux !» dit-il en apercevant l'employé qui sortait avec un rouleau de moquette rouge sur l'épaule. Il traversa vite, puis de l'autre côté cria « Allons, dépêchez-vous de passer !»«
Bon, la foire n'est pas sur le pont !» répondit gaiement Fusier, qui se retourna pour jeter au travers du treillage de bordure un « Bonjour, la mère !» à sa jeune femme, la femme de la poste qui s'en allait, son sac en bandoulière.
« Eh bien, voyons, Fusier ! On y va, chef !» Et il posait le pied entre les premiers rails, ce pied qui ressemblait à un sabot de cheval, lorsque le train spécial déboucha du pont encore à grande vitesse.
« Traversez pas !» clama le chef de guerre. « Traversez pas, je vous dis !»
Mais l'employé était lancé maintenant. Il courait, cahin, cahin, fouetté par les grondements de la chaudière toute proche. Juste au milieu de la voie, il buta contre une traverse et tomba, lâchant le tapis qui alla rouler loin en arrière. Il eut vite fait de se relever, et sans le rouleau de moquette, il aurait pu encore éviter la machine. Il se crut le temps de le ravoir et revint sur ses pas, sourd aux appels du chef de gare et du mécanicien. La locomotive approchait. Et quand pour la seconde fois il voulut passer, le chasse-pierre le cueillit et l'abattit sous les roues. Cela fit un peu de tort à l'étiquette d'arrivée. Le chef de gare, au lieu de se précipiter à la portière du wagon-salon, afin d'aider S.A.R.I. Monseigneur le prince de Chypre à descendre, se démenait, se dépitait, se désolait, ordonnant au médecin « Reculez, gré nom de nom, reculez !» « En voilà un service. Je vous dis que Fusier est dessous. » Appelant au secours, en proie à un désespoir comique d'homme consigne et de bon cœur. Cependant, de la station, on était venu au cri.
des employés, des plâtriers qui déchargeaient des sacs au garage, le cocher de l'omnibus de Triel, des paysans, un soldat, la femme de la poste revenue pour voir avec les autres. La machine siffla, s'ébranla. « Stop !» commanda le chef de gare. Alors ce fut un spectacle horrible. Fusier était là, sans vie, dans une flaque rouge, qui noyait l'entrevoie tout entière. Rien que le tronc. Les jambes traînaient loin, l'une coupée à mi-cuisse, encore prise sous les roues de devant. L'autre, celle du pied beau, couchée comme une vieille botte au revers de la voie montante. On le relevait quand le prince parut, suivi de son aide de camp et du baron Joly, très contrarié. « Qu'est-ce qu'il y a donc, monsieur Michelin ?» demanda le banquier. Mais il ne reçut pas de réponse du chef de gare, qui s'arrachait les cheveux sous sa casquette en répétant « Crénom de nom, en v'là un service, en v'là un service !» Et ce fut une femme qui le renseigna. « C'est quelqu'un de mort, quelqu'un du chemin de fer, » dit-elle. « Tenez, l'homme à la factrice, qu'à la sacoche, qui marche derrière elle comme si qu'elle était saoule. » « Ah, merci !» fit le baron du même ton distingué dont il eût remercié un passant qui lui aurait dit son chemin. Et revenant au prince, « Monseigneur, dit-il, ce n'est rien, c'est un homme du chemin de fer. » Et il voulut l'entraîner. Mais l'altesse, « Non, non, mon cher baron, non, non, peut-être reste-t-il quelque chose à faire. Puisque votre altesse me le permet, je vais donner des ordres. » accepta le banquier, qui s'en fut à la petite porte particulière devant laquelle ses gens attendaient. En chemin, il croisa Jeanne et son mari, Madame Street et Madame Hervé, de la Moselle, qui s'avançaient curieusement, flanqués du ministre et de sa femme, auxquels Joviac faisait escorte. Et, de peur que la vue du sang ne pâlît le teint clair de ses belles invitées ou ne soufflât leur bonne humeur, il les força de rétrograder avec lui. Seul, le ministre crut devoir résister. Mais sur une exclamation de sa femme, « Agénor, tu sais bien que tu ne peux pas voir le sang !» Appuyé de cette remarque à voix plus basse, « Puisque ce n'est pas ta circonscription !» Il rebroussa chemin en compagnie des autres. Entre-temps, on avait transporté le corps dans la salle d'attente, qu'une foule bourdonnante encombrait. Fusier était sans connaissance, et sa femme, agenouillée, lavait ses plaies, ayant encore aux reins sa sacoche. La cuisson de l'eau salée lui fit rouvrir les yeux. Il lâcha un juron, puis, se souvenant tout à coup, il pleura. Alors le prince, qui, avec son aide de camp, avait suivi le cortège, s'approcha. « Du courage, mon ami, » dit-il en serrant cette pauvre main qui grelottait. « Du courage !» Fusier leva son regard vers cette haute figure qu'il ne connaissait pas, mais dont le sourire lui disait, et, trouvant du réconfort à se plaindre, il commença d'une voix balayée d'abois et de sanglots. « Ces rapports à mes gosses, que ça m'embête, j'en ai six, moi. Ah, tel que vous me voyez, deux filles, le reste, ah, garçon. Et la mère n'est pas guère forte, la pauvre. Ah !» À ce mot, sa femme éclata. Jusque-là, elle n'avait pas faibli, mais cette voix chère, qui la nommait, qui la regrettait, et qui avait des larmes en parlant d'elle, cela lui creva le cœur tout à coup. « Emmenez-la !» dit quelqu'un. Un gendarme qui venait d'entrer s'en chargea. Il fallut lutter. Elle poussait des cris déchirants, que la mémoire éteinte du moribond l'empêcha de reconnaître. « Comment qu'ils vont faire, tous les sept ? » continua-t-il. « À présent que je serais... Si encore la crapule ne m'avait chopé que ma mauvaise jambe ! C'est jeune tout de même pour fiche son camp !» Et comme le prince lui parlait de guérir, « Guéri ? » dit-il. « Et à quoi que ça me servirait de guérir ? Puis que je n'aurais point de pain à leur donner. Ah, bien sûr qu'ils ne voudraient plus de moi au chemin de fer. Ils ne m'aimaient déjà pas trop, rapport à mon pied. Ah !» Puis une lueur lui vint. Cet homme de grande mine, Cette foule, qui se tenait à distance, et débrouillant le personnage sous son négligé de chasse, il dit avec une manière de gaieté « Tout ça, c'est pourtant la faute à votre... de tapis !» Une gorgée de sang enveloppa ces derniers mots qui clapotèrent affreusement. Le baron, qui rentrait, nasilla « On est parti chercher le médecin. »«
C'était pas la peine de le déranger, » fit un homme de la gare. « Fusiller est... »
L'agonie commença aussitôt, comme si cette phrase en eût été le signal. Elle dura quelques minutes. Vers la fin, la mémoire du malheureux eut l'air de se rallumer. Il appelait sa femme, ses enfants. « Caroline, Caroline, oh, mes pauvres petits gosses, mes pauvres petits gosses !»«
Je m'en charge, » dit le prince, se penchant sur cette chose qui n'était déjà plus un corps et n'était pas encore un cadavre. « Vous entendez, mon ami? Je m'en charge !»
Cette grande parole lui fut payée comptant, car, s'étant relevé, il entrevit Jeanne, qui était venue seule derrière le baron, moins attirée peut-être par le pauvre diable que par l'Altesse royale, et qui, prise à cette majesté d'action et de présence, au travers de la porte ouverte, lui donnait l'étrenne de ses beaux yeux mouillés. Un train montant, dont le glissement ralenti ébranla les vitres de la salle d'attente, sembla ranimer le mourant. Il prononça quelques mots. « Caroline, la poste, en retard, le 15 bis !» Le reste fut étouffé par l'appel bourru du chef de gare. « Les voyageurs pour Poissy, Achères, Maison, Paris !»«
Il n'y a pas de voyageurs pour Poissy, Achères, Maison, Paris ?»
Voyant que personne ne se dérangeait, l'homme consigne finit dans sa moustache « Crénom de nom, en v'là un service !» Le médecin arriva peu après. « Est-il transportable, docteur ?» lui demanda le banquier. «
Oui, monsieur le baron, parce qu'il est mort. »
On sortit en silence. Jeanne d'abord avec le prince, le baron suivant avec Fitzroy. Il fallut attendre le départ du train pour franchir la voie encore sanglante, malgré les seaux d'eau jetés et la bruine qui tombait. Lorsque la toque de loutre, aigretée d'une aile de grouse, et la longue pelisse à taille de la belle Madame Levasseur parurent en dehors des barrières, Madame Hervé, de la Moselle, qui était occupée à abriter ses rondeurs sous les acacias sans feuilles du tournebride, s'écria, oubliant la présence de l'Altesse.
« Eh bien, qu'est-ce qu'il vous arrive? Vous nous faites tremper, chère belle !»«
Allons tailler un petit bac, » intervint le marquis.
« Moi ?» remarqua Madame Street, furieuse de s'être laissée vaincre en courtisanerie. « Je ne comprends pas qu'on aille voir ces choses-là quand on n'y est pas forcé !»
Et elle finit presque haut en plongeant les yeux dans les yeux du prince.
« Cette femme-là n'a pas de cœur !»
« Est-ce qu'il est mort ?» demanda Madame Doucerin. Elle s'était retroussée jusqu'à mi-jambe et serrée entre le parapluie de Levasseur et le parapluie du ministre, on n'apercevait d'elle que de forts bas blancs mouchetés de boue. Le banquier, toujours soucieux de la gaieté de ses hôtes, fit
« Mais pas du tout, du tout, il y a de l'espoir !»
et il s'empressa de rejoindre le prince et Jeanne, qui, dépassant la grande berline à Saint-Glace, arrêtée devant la porte de sortie, se dirigeait vers un drague, au repos, derrière, les valets de pied descendus à la tête des chevaux.
« Est-ce que votre Altesse préfère conduire ? » dit-il.
« Oui, je préfère. Il pleut à peine. »
Puis, se tournant vers Jeanne, qu'il n'avait pas quittée, le prince ajouta d'un ton de courtoisie charmante «
J'aurai l'honneur de vous conduire, si vous le permettez, madame. »
Il l'aida lui-même à monter, fit de même pour Madame Hervé, de la Moselle, empoigna les rênes et le fouet que le baron lui tendait, et, bien d'aplomb, un fin sourire flottant dans sa barbe pâle, le premier coachman d'Angleterre enleva d'un clair coup de langue les quatre haleusans dorés. « Allons, Joviac, » dit-il après quelques pas. « Un peu de musique !»
Le marquis tira la trompe de son fourreau de cuir, et le drague n'était pas au bout de l'avenue que ses notes régayées de fanfare, le trot musical des bêtes, la petite pluie qu'un vent d'est chassait en poussière piquante, avaient si bien dissipé, nettoyé les mélancolies du débarquement, qu'on eût demandé à ces gens ce qui les avait mis en retard, plus d'un peut-être aurait dit « Quoi donc ?» Il y avait à peine 3 kilomètres de la station au château de Beauplaisir, Beauplaisir les princes, comme on disait dans le pays, car il n'était guère de princerie que le baron n'y eût logé, grisé de vin, de chasse ou d'amour. Et rien n'était si curieux à feuilleter que le livre d'hôte à fermoir précieux, dans lequel les altesses, ravies d'une hospitalité magnifique, signaient de leur prénom, parfois un mot d'impression reconnaissante. Vrai livre d'or, où le banquier étalait avec orgueil la griffe couffique du chat de Perse. Beauplaisir savait flatter jusqu'aux caprices orientaux. Les paraves de l'empereur du Brésil, du roi de Grèce et de bien d'autres, outre 60 grands-ducs, princes régnants ou présidents de républiques lointaines, non compris le fretin des ministres. Vrai livre d'or, d'où venaient au banquier les meilleurs profits de sa banque, ses mines de Primelaïef, dans l'Oural, ses lignes de chemin de fer en Perse, en Grèce, en Portugal, au Brésil, et son soufre de Sicile, et son mercure d'Espagne, et son emprunt chilien, et ses ftim navigation mail, et le reste. Au très intime, il montrait mieux encore. La chambre où sa majesté avait passé une nuit avec... Et il citait tout bas une belle fille, parisienne ou étrangère, que des fournisseurs spéciaux draguaient pour lui et discrètement expédiaient à Beauplaisir avec des poissons rares, des fruits, des gibiers exotiques. S'il se taisait du nom, il y avait gros à parier que la personne était du monde, car il n'avait point de parti pris et servait chacun suivant ses préférences, avec les sereines impudeurs d'un vieux garçon et le désintéressement hautain d'un évangéliste, sans autre passion que son église et sa banque, et la haine du juif concurrent. Les alezans trottaient, bien en main. Déjà l'on apercevait dans la grisaille, des branches, les toitures effilées de tourelles Moyen-Âge. À un tournant du chemin, l'énorme grille frottée d'or éclata entre des barrières blanches, que deux lignes de garde-chasse, en uniformes bleus et rouges, les couleurs de Chypre, jalonnaient. Quand le drague passa devant eux, ils lancèrent 3 hurrahs, ce qui excita les chevaux et les jeta d'une allure plus vive dans le large quinconce de tilleuls menant à la cour d'honneur. Là, un peloton de piqueurs se tenait, la trompe aux lèvres, qui d'ensemble, sitôt la voiture en vue, sonnèrent une royale. Le prince descendit d'abord pour tendre le poing à Jeanne, et il n'avait pas mis le pied sur la première marche du perron, où le baron, déjà en bas, l'attendait au milieu de sa livrée, que le drapeau anglais flottait à la pointe des 2 tours. « Mon cher baron, c'est comme cela que vous respectez mon incognito ?» dit le prince en souriant, avec une menace des doigts. « Votre Altesse est ici chez elle !» fit le banquier, s'excusant, mais trop fier pour recevoir un Chypre sans le crier aux voisins. Ayant remis les femmes aux mains de valets qui devaient les conduire à des appartements désignés, lui-même il guida le prince par la salle des gardes jusqu'à une vaste pièce que des tapisseries de Windsor décoraient. Le laissant entre Fitzroy et Joviac, il revint en hâte recevoir le ministre que la berline amenait d'un trot exprès ralenti. Chacun casé, il retourna prendre les ordres de l'altesse. Sur l'assurance de celle-ci qu'elle était prête et avait une faim considérable, il envoya un valet faire sonner la cloche et s'en fut guetter ses hôtes sur le seuil du salon, les saluant chacun d'une phrase aimable à mesure qu'ils arrivaient dans leur accoutrement de bunting, le ministre, extrêmement botté et fourré, Panel en élégant de magasin de confection, Levasseur très gêné dans sa culotte neuve de Gégère. Quant à lui, il avait gardé son complet de cheviots sombres et ses fortes bottines anglaises, ayant l'habitude seulement d'y joindre un petit collet et un chapeau gris, en chasseur fantaisiste pour qui la chasse était un pur agent d'affaires. Les femmes, en revanche, hormis celles du ministre et Madame Hervé, de la Moselle, qui comptait suivre seulement en voiture, avaient fait assaut de crâneries et de petits « ah, ah » murmurés, accueillir Madame Street, les mollets nus sous sa courte jupe à l'écossaise, Jeanne, enfin, dans son travesti de drap beige, haut guêtré sur des culottes bouffantes, et le buste moulé par un jersey de loutre. Aussitôt que le prince parut avec Fitzroy et Joviac, tous trois en knickerbockers à carreaux d'une correction britannique, la porte de la salle à manger s'ouvrit et un maître d'hôtel très gros cria « Monseigneur est servi !» L'altesse fit d'abord un mouvement vers Jeanne, puis, sa politesse d'étiquette reprenant le dessus, ce fut Madame Doucerin qu'il conduisit à table, ce dont Madame Street le remercia avec un sourire de Junon. Le déjeuner n'eut pas l'allure pimpante d'un repas de chasse, bien que la chair fût royale et royalement offerte par un peuple de valets dans de la vaisselle plate aux armes de Chypre à côté d'Angleterre, sous un plafond de Tiepolo, encadré de boiseries de Capoferrato de Bergame. Mais le voisinage de cette aigre-douce Madame Doucerin, qui, traitant de puissance à puissance, répondait aux avances de l'altesse par des « oui, prince » familiers, avait de quoi refroidir, piquer même de moins chatouilleux. Le ministre eut beau lancer, dès le Xérès, une tirade filante sur le parlementarisme modèle que l'Europe enviait à la Grande-Bretagne et qu'il demandait la permission de nommer le « cricket bowl », raisonné d'une opposition sympathique, Joviac, plus d'à moitié gris au château Larose, eut beau rajeunir d'une langue ou d'un accent spécial quelques nouvelles à la main de la veille, Madame Hervé établir un savant parallèle entre les alliances nécessaires et les alliances naturelles, Levasseur attaquer la louange des chambres de commerce anglaises, Madame Street pindariser des impressions de voyage au lac du Cumberland, et Panel timidement tenter une aventure de chasse en Écosse, bien que, disait-il, il fût plutôt pour l'art qui fait que pour l'art qui défait. La conversation eut tout le temps les somnolentes allures d'un repas officiel. Et lorsque, après les fraises et le Johannisberg, Monseigneur se leva, Monseigneur se crevait. C'est ainsi du moins que Joviac interpréta son mouvement de retraite. Cette fois, par exemple, la politesse eut tort, et au lieu de Madame Doucerin ou de Madame Hervé, de la Moselle, dont les puissants corsages l'ont bastionné de droite et de gauche, ce fut Jeanne qui l'emmena au fumoir, où le café attendait sur une large table de malachite, témoignage monnayé d'une satisfaction grand-ducale. « Ils sont mortels avec leur politique, ne trouvez-vous pas ?» lui dit-il, ne se souvenant plus que son mari en était de ces politiqueurs à outrance. « Vous n'aimez donc pas la politique, monseigneur ?» fit Jeanne, qui, du déjeuner, n'avait pas dit une parole. « Oh non !»« Pourquoi ?» dit-elle, insoucieuse plus qu'ignorante des protocoles d'étiquette. « Vous aimez peut-être à parler cuisine, vous ?»« Oh non !»« Eh bien, la politique, c'est comme la cuisine. J'en mange, mais je n'en parle pas. »« À quoi bon, quand il y a tant de sujets exquis à traiter ?» Et en disant cela, ses clairs yeux de libertin la croquaient. « Ah ? Et lesquels, par exemple ?» fit Jeanne d'un ton de petite fille gourmande. « Mais les arts, les femmes ?» « Vous aimez à en parler, monseigneur, des femmes ?»«
Oui, j'en parle, mais je n'en mange pas.
Vous êtes bien sûr ?
Leurs regards se touchèrent une seconde, mais Madame Sweet, qui les épiait, les sépara d'un mot acide.
Vous accaparez son Altesse, ma chère.
Je n'accapare personne, riposta Jeanne, qui, sous un prétexte, alla rejoindre son mari.
Le prince, un peu piqué de cette retraite, se mit à ferrailler en anglais avec la belle américaine, qui, exprès, rendait le fer et se fendait à fond. Un instant, elle put espérer avoir le prix du tournoi. Le prince lui ayant demandé de quel clan d'Écosse faisait partie le gentil Highlander qu'elle représentait, elle répondit crûment « Cyprus ».
« Ah » dit-il.
Et il allait poursuivre, la bouche déjà mielleuse du compliment tout près, lorsque le baron, s'approchant, proposa de partir et de profiter du soupçon de soleil qui filtrait à point entre des nuées éclaircies.
« Allons, mon cher baron !» dit le prince.
Et l'on passa dans l'armurerie, dont les hauts placards de chêne clair contenaient les râteliers d'armes. « Monseigneur, prononça le banquier, voici des compatriotes. Je me permets de les recommander à votre Altesse. Elles sont de Roberts de Londres. »
« Non, non, répondit gaiement le prince, que ce voisinage de beauté faisait de belle humeur. Je veux une Parisienne. Rien ne vaut une Parisienne. »
L'équipement du ministre acheva de rompre la glace. Quand le baron lui tendit un « chokebord », Madame Doucerin se précipita, suppliant son mari de ne pas le prendre.
« Tu n'as jamais tiré, Agénor !»
Puis, comme il insistait, désireux de se revancher devant Jeanne du rôle secondaire où la présence de l'Altesse le rangeait, elle se tourna vers le baron, et, des pleurs dans la voix, « Au moins, dit-elle, ne lui donnez pas de cartouche !» Cela plut à rire, et Madame Hervé, de la Moselle, brandissant l'arme du ministre dans un bel élan de chauvinisme arrosé de vin belliqueux, entonna « Allons, enfants de la patrie !»«
En voulez-vous une, madame ?» offrit le banquier.
« Oh non, merci, je suis maladroite comme une piborgne. Je serai sûre de rapporter mon rabatteur. »
Seules les deux belles, ainsi que Madame Hervé les appelait, s'armèrent de miniatures à crosse d'ébène, dont les joues étaient capitonnées. Tout le monde garni, on monta dans deux briques, menées en poste pour gagner le rendez-vous. C'était à une étoile de ces 400 hectares de forêt, clos de murs, qui permettaient en toute saison la chasse, c'est-à-dire les affaires. Les gardes étaient là, porte-carniers et valets de chiens, et les charrettes à gibier attelées de poneys corses. Le baron posta son monde en trois groupes, occupant chacun une des allées parallèles, largement percées parmi des bois de jeunes coupes. D'abord le ministre, Madame Sweet et le vassar, puis Joviac, Panel et Fitzroy. Jeanne, enfin, entre le prince et lui.
« Là, vous y êtes ? » cria-t-il lorsque chacun eut sa place.
Et il donna le signal au garde-chef, qui jeta un long « Hoé !» auquel les rabatteurs répondirent. Les trois groupes s'ébranlèrent, salués de la main par Mesdames Hervé, de la Moselle, et Doucerin, dont l'une tremblait pour son mari, l'autre pour son alliance. Et aussitôt une clameur lointaine embrassa le taillis d'un tonnerre d'abois qui allait s'approchant. La chasse commençait. Vraie promenade au début, et promenade charmante. La broussaille nue, frappée d'un sucre de givre, flambait dans le soleil de midi, tout rond et tout rouge, comme une tache de sang au milieu d'un ciel verdâtre. L'air calmé prolongeait les bruits en ondes harmonieuses. L'herbe craquait sous les pieds, avec de petits brisements de coquilles, et des tas de feuilles humides, emmêlées aux cheveux roux des bruyères, montait une bonne odeur d'orange. Jeanne marchait à côté du prince, le baron se tenant un peu derrière, le fusil à la bretelle, suivi des porte-carniers qui rechargeaient les armes, et les deux valets de chiens, qui, leurs bras clachés,
criait à chaque bête qui passait.
« Faisant à droite, monseigneur !»«
Lapin à gauche, monseigneur !»«
Chevreuil sous bois, monseigneur !»
Parfois un appel à la ligne de rabat. Cependant, des coups de feu éclataient au loin. Des vols lourds crépitaient dans le taillis. Le prince tirait peu, très occupé de Jeanne. À peine de ci de là, lorsqu'une pièce lui partait trop belle, tentant son adresse de roi qui a chassé tout petit.
« Mais vous ne manquez donc jamais ?» dit-elle après un joli coup.
« Oh, si, quelquefois, mais j'ai assez de chance aujourd'hui. Je suis... Nous avons un mot qui explique. Est-ce que vous savez l'anglais ?»«
Assez pour demander du pain. »«
C'est qu'en français... Enfin, je vais essayer. Je suis... enchantée. »«
Cela veut-il dire ravi ?»«
Oui, et autre chose encore. » « Votre présence me... »
Elle changea le sujet, qui lui semblait périlleux, et par un caprice bien femme, lui demanda
« Comment trouvez-vous Madame Street, monseigneur ?»«
Je ne la trouve pas. On ne trouve que ce qu'on cherche. »
Un hoquet furieux de coq faisant, qui traversait l'allée, la queue en panache, inondée de soleil, lui jeta le fusil à l'épaule. Mais, désarmant, il dit «
Tirez donc ! Tirez donc !
Bravo ! Ajouta-t-il en voyant l'oiseau baisser sous le plomb, puis choir par petites saccades encore vivantes. Ce succès mit Jeanne en goût, et pendant quelques minutes, elle sema sa poudre au hasard, sans épauler seulement, riant d'un frais rire lorsque le prince se moquait de ses bredouilles.
« Attendez que je vous montre, vous ne tenez pas bien votre fusil. »
Et, lui plaçant la crosse à l'épaule, il l'enveloppait de ses bras. Mais ce jeu lui déplut, lui fit peur peut-être, et elle sembla un moment ne songer plus qu'à la chasse. C'était maintenant sous bois un continuel galop de petites pattes fines sur les feuilles craquantes, des envolements sonores qui secouaient les épées à mesure que le cercle du rabat se resserrait, qu'on approchait de l'enceinte fermée, loin par des papillotements de banderoles. Le prince, gagné à cette ivresse de bête qui fuit, de poudre qui parle, lâchait ses coups au jugé, reprenait une arme prête, la déchargeait, et toujours, amoncelant un carnage, une boucherie, qui faisait dans l'herbe une rosée de sang. Soudain le vent s'éleva. Un long rideau de nuées, courant sur le soleil, balaya d'ombre toute l'allée, et la pluie tomba en inverse.
« Eh ! » dit le prince, « voilà qui n'est pas du programme. Vous avez un manteau ?»«
Pas le moindre, monseigneur. »«
Voulez-vous le mien ? » ?»«
Mille grâces. » »«
Arrêtons-nous au moins. » »«
Bon, pour une ondée. »
Ils continuèrent quelques pas. Mais comme l'averse augmentait, le prince, se retournant, fit «
« Mon cher baron, ne pourriez-vous... »
Il n'alla pas plus loin, car il venait de s'apercevoir que c'était aux gardes qu'il parlait. Alors, un d'eux, ôtant sa bombe galonnée de rouge, dit
« Monseigneur, monsieur le baron s'est blessé au pied. Conséquemment, monsieur le baron... »
« Ah !» interrompit le prince, qui eut comme un petit froid à la peau.
« Si monseigneur désire se mettre à couvert... » Il n'y a pas loin au pavillon qu'on appelle. C'est ici bien proche, à demi-portée de fusil, sur votre main droite.
« Voulez-vous ? » demanda le prince à Jeanne, qui poursuivait sa marche, narguant la pluie. Et sa voix était très caressante, et la lumière de ses yeux suppliait. Elle ne répondit pas tout de suite, hésitante et peureuse au bord de cette faute qui s'ouvrait là, brutalement, et dont les facilités même la troublaient. Puis, au fond d'elle, à l'horizon de sa pensée, il lui sembla voir passer la figure haineuse de Daniel, et ce fut avec une sorte de colère qu'elle consentit.
« Vous voulez bien ? Oh, que vous êtes gentille, et que je vous... »
Il allait dire « Je vous aime ». Et ce mot qui lui resta à la gorge, elle l'entendit pourtant. Dès lors, il s'enhardit. Prenant son propre manteau des mains d'un garde, il s'entêta à le lui arranger aux épaules.
C'était un Macfarlane à carrick qui l'agrandissait presque à sa taille. Rapproché par l'averse, il marchait vite maintenant, côte à côte, se frôlant de l'épaule, de la hanche parfois. Et il y avait entre eux des silences plus ardents que des paroles. Le tapage du rabat s'éloignait sur la gauche, suivant la courbure de l'allée, que traversait encore, ci et là, un lapin lancé du taillis comme par une fronde. Quelques poules faisanes, échappées des dernières mues, de temps en temps une bécasse, qui montait droit dans la broussaille, secouant en pluie l'eau de ses ailes. Une seule fois encore, un chevreuil, qui bondit du fourré, et Mutin s'arrêta au milieu, allongeant son mufle humide et fauve, donna envie au prince qui l'ajusta. Mais Jeanne eut pitié, et comme si elle se fût déjà sentie en droit de lui demander quelque chose, elle dit « Non, il est trop joli, ne le tuez pas !»«
Pour vous, oui, » répondit-il.
Et le cadeau de cette vie fut entre eux comme les arts d'un marché. Sur le point de tourner dans un chemin qui croisait, le prince s'informa du geste. « Oui, monseigneur, » fit un garde, « le pavillon est droit dans le bout. » Ils regardèrent en même temps. C'était un rendez-vous de style Louis XVI, large et bas, avec de hautes fenêtres, et involontairement, ils ralentirent le pas. Lui, assuré de son plaisir et le savourant par avance, elle, tâtant son peu de force, et soucieuse de prolonger l'espèce de joie inquiète qui la tenait et dont les frissonnements n'étaient pas sans douceur. Mais, s'étant retournée, surprise tout soudain du silence de l'avenue, elle vit que les gardes les avaient laissés. Ce fut pour elle une lumière. Ce baron qui était resté derrière, se disant blessé, ces gens qui partaient à leur tour, suivant quelque ordre reçu, mais alors... Sa faute n'était plus sa faute. On la donnait. Elle ne se donnait pas. Et cette pensée lui fit honte, que ces gens étaient dans son secret, qu'elle ne tomberait pas par sa seule faiblesse et que cet abandon d'elle-même, les étapes de sa chute et ses combats et ses soupirs, d'autres les avaient préparés. D'un coup d'œil, elle cingla l'altesse, qui continuait à se distiller en phrases courtoises, respectueuses, jusqu'en leur manque de respect. Elle eut envie de lui crier « Je sais tout, vous êtes un lâche !» puis de s'enfuir. Mais elle n'en eut pas le temps. Le perron était là, avec les blanches tentations de ses degrés de marbre, l'attirance de sa porte entr'ouverte, par laquelle on apercevait un cabinet de glace, des trumeaux gais, des meubles souples, couverts d'un damas riant à bouquets, un lunch enfin servi auprès d'un feu flambant. Et la pluie qui se faisait du complot, et les nuages qui s'égouttaient tout à coup, comme pressés à la fois par une main puissante. « Allons !» dit le prince, s'effaçant sur le seuil. Et la bête qui est en l'homme s'étant cabrée au-dedans de lui, ce fut d'une main presque rude qu'il la poussa à l'intérieur. Elle ne se révolta point, amollie dès l'entrée par une chaleur de bien-être, et lorsque ses yeux de prince l'appelèrent, elle vit que de cet éclair de dépit qui lui avait levé le cœur sur le chemin quand elle s'était sentie seule et livrée, rien de tout cela n'avait passé la porte et qu'elle était à lui, qu'il n'avait qu'à la prendre. « Approchez-vous donc du feu. Est-ce que vous n'avez pas froid ? » dit-il. Elle vint à la cheminée et y demeura droite, tandis qu'il lui ôtait son manteau, avec des gestes d'une lenteur savante qui s'arrêtait davantage au bouton de la gorge, et, descendu, s'éternisait en promenade chatouilleuse sur ce corps qui vibrait. Alors elle eut conscience d'être dévêtue sous son travesti masculin, et ne sut que faire de ses jambes. Elle éprouvait une gêne à les savoir nues dans leur guêtre de daim. Lui restait debout près d'elle, mal à l'aise au dernier moment. Sa main dégantée semblait chercher le long de la taille de Jeanne une place où fixer son étreinte, sans que sa fierté, habituée aux avances, osât affronter un refus. Puis, comme elle se recoiffait, les bras hauts, repiquant une natte sous sa toque, il en profita pour la saisir à deux bras avec ces mots « Que vous êtes belle !» Mais elle se dégagea, et, blottie dans un fauteuil, les genoux retirés sous sa demi-jupe, riposta par cette suprême défense de son ironie en détresse. « Vous me trouvez belle ? C'est la première fois qu'on me le dit !» Il partit d'un rire aigu, qui rappelait le hennissement d'une bête en amour. Et, allant prendre sur la table une assiette de sandwich, il revint la lui présenter à genoux. « Je vous adore » fit-il tout à coup, étranglé d'un désir violent. « Voilà un mot, en revanche, que vous ne dites pas pour la première fois. Si, je vous jure, jamais comme maintenant, jamais. Eh bien, mettons que vous m'adoriez. Après ?
Après ?
Oui, après. » Effrayée de sa propre attaque, elle la corrigea aussitôt. « Vous m'étouffez avec vos sandwichs. Ne sauriez-vous m'adorer d'une façon moins bourrante ?» Il se releva, et ayant été versé d'un vin d'Espagne dans un haut verre de Venise, il le garda dans sa main. « À une condition, » dit-il en se ragenouillant. « Oh, des conditions. Mais écoutez donc, est-ce qu'on n'a pas marché dans l'allée ?» Il courut à une fenêtre, et après un rapide coup d'œil d'homme coutumier des surprises, il alla fermer la porte au verrou.
« Non, non, » dit Jeanne, « si on venait, cela ferait croire... »«
Quoi ?»«
Ce qui n'est pas, »
répondit-elle d'un ton qui s'effarait à mesure au souffle chaud de ses sens éveillés. Il retomba devant elle sur un genou, sa bouche à hauteur de ses cheveux, où une goutte de pluie tremblotait.
« Vous avez donc juré de me faire mourir de soif ?»«
Voici.
Mais en échange, vous me permettrez de boire cette jolie perle d'eau qui frissonne ici, à votre petite oreille. »
Jeanne, sans répondre, tendit la main, et elle fermait les yeux, s'abandonnant, déjà vaincue, et des envies lui courant par la chair, lorsqu'un coup frappé à la porte les jeta debout tous les deux, pétrifiés et muets. Elle retrouva d'abord la parole, et sa première pensée fut pour lui, pour ce monseigneur en goguette, ce bel amoureux expert aux escampativos.
« Sauvez-vous !» lui dit-elle à voix basse. « Laissez-moi, qu'on ne vous trouve pas !»
Voyant qu'il ne bougeait point, collé au sol par une peur, elle se risqua à une croisée, tourna l'espagnolette, écarta les battants, et, la lui ayant montrée,
« Par là !» fit-elle. « Vite !»
Mais le ridicule de cette fuite lui sauta à l'esprit.
« Non, dit-il, je ne vous quitterai pas. Il n'y a rien dans notre tête-à-tête qui puisse...
« Si, le verrou » râla-t-elle, le bras vers la porte que du dehors on essayait d'ouvrir. Un silence s'abattit entre eux, et d'instinct, ils se reculèrent l'un de l'autre, écrasés, sans parole. Encore une fois, du geste, elle lui montra la fenêtre, et ils s'y dirigeaient, quand soudain, une figure d'homme dépassa le balcon, grandit à la taille d'un corps, et sous ses habits souillés, sous son feutre ruisselant, Jeanne reconnut Daniel. Il était venu de Paris après eux, les suivait depuis le commencement de la chasse, en plein bois, au risque de se faire tuer. Et c'était lui que tout à l'heure elle avait entendu marcher dans l'allée, guettant l'heure de paraître. Elle hurla un cri rauque, « Toi !» et épaula son fusil ramassé derrière elle sur la table. Mais le prince le lui arracha des mains, et ayant retrouvé son aplomb sous la menace d'un danger, « Qui êtes-vous » demanda-t-il, très calme en apparence, à Daniel, qui avait sauté dans l'intérieur et avait couru déverrouiller la porte. Avant que celui-ci eût pu répondre, Jeanne, se jetant entre deux, cria, et ses yeux avaient des pleurs de rage et sa voix des fouettements d'épée.
« Monseigneur, je vous présente le fils de mon mari.
Comme il est bien dressé, n'est-ce pas ?» Le prince s'inclina, et, affilant son sourire, « Est-ce qu'il rapporte ?» dit-il. Daniel fit un mouvement pour s'élancer, mais Jeanne l'arrêta d'un regard. et claquant des dents de fureur, de tout près, les yeux enfoncés dans les yeux, elle lui cracha ces mots.
« Oh, je te déteste ! Je te déteste ! Si tu savais comme je te déteste, c'est infâme ce que tu as fait là. Tiens, va-t'en ! Va-t'en ! Mais va-t'en donc ! Je te tuerai, je te... »
Et sans le toucher, elle le poussait, le reculait, comme fascinée par ses diaboliques œillades. Arrivé au perron, il enveloppa le prince d'un regard menaçant, puis, la tête dans ses mains, il disparut au profond du taillis. Daniel parti, Jeanne eut une crise de nerfs, qui se noya vite en un torrent de pleurs. Elle se sentait amoindrie, dégradée. On l'avait insultée. Et devant qui ? Devant l'homme qu'elle aimait. Car elle l'aimait maintenant qu'on l'en avait voulu séparer. Son excuse, cet amour, sa revanche contre le misérable qu'il avait sauvé lorsqu'elle ne le voulait pas. Après, elle s'abîma en d'infinis pardons, en des protestations vibrantes.
« Je suis sûre que vous ne m'aimez plus. Plus du tout. Oh, que je suis donc malheureuse !»
Comme le prince, sensiblement refroidi par cette scène de famille, et l'ayant consolé de son mieux, quoique sans chaleur, se préparait à partir, elle eut un désespoir, se jetant à ses genoux, l'embrassant, le touchant, dans une offre violente d'elle-même. Alors elle eut donné sa vie pour qu'il la possédât. Il voulut bien rester jusqu'à la fin de l'averse, et ils vécurent là ensemble une heure éternelle. Lui, son envie passée, se battant l'âme afin de faire du bruit à défaut d'autre chose, et s'ennuyant au point que, s'il avait eu des cartes, il lui en aurait peut-être proposé une partie. Elle, se désolant sur un plaisir perdu, escompté, comme un enfant qu'une pluie force à garder la maison. Au baisser du jour, des grelots de postiers tintèrent dans l'avenue. C'était le baron qui arrivait en landau à la recherche de ses hôtes, et admirable fut sa surprise en les rencontrant là.
« Nous avons fouillé tout le bois. Nous pensions votre Altesse égarée. J'avoue que l'idée ne m'était pas venue. Ce sont toujours les choses les plus simples à quoi l'on songe en dernier, » dit-il avec son flegme anglican sous lequel perçait une fièvre de joie.
Mais il déchanta vite au retour. L'air de fatigue du prince et ses bâillements d'ennui, mal dissimulés par une petite main gantée de chevreau blanc à côte noire, les yeux rouges de Jeanne et ce reste de hoquet qui lui sifflait par-ci par-là dans la gorge, lui firent craindre pour une certaine grande concession de râloise cypriote, qui ne devait guère à son estime coûter qu'une petite, toute petite concession de vertu. Le piquant de cette rentrée, qui prêtait un peu bien le flanc aux commentaires, passa inaperçu, grâce à une histoire que le banquier inventa. Personne que les gardes et les intéressés n'ayant eu vent, ni de sa fugue, ni de sa blessure. On s'était mis ensemble à l'abri, pendant qu'un valet de chien allait faire atteler une voiture. Seule, Madame Hervé, de la Moselle, conçut quelques soupçons, et comprit aux figures que l'alliance anglaise, non plus que la concession, n'avait avancé d'un demi-pas. « Combien de pièces, chère belle ?» demanda-t-elle à Jeanne, lorsqu'on fut réunis autour du grand feu clair de la salle des gardes. « 17 ou 18, je crois, d'après mon compte gibier. 11 lapins et... »«
Pas de grosses bêtes ?»
interrompit Madame Street, très jalouse de n'avoir eu à croquer qu'une excellence. Monsieur Doucerin, qui n'avait eu, lui, qu'une Américaine à vaincre, se consolait de cette facile victoire, en courtisant Jeanne que l'Altesse délaissait. « Et vous, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez tué ?» lui dit-elle méchamment, avec le flair de quelque maladresse. « 4 faisans et un chien, » répondit-il un peu confus. Mais le vassard, qui pendant toute la chasse n'avait fait autre chose qu'appuyer les coups du ministre, en réclama sa part d'un ton de courtisan.
« Oh, mon cher ministre, vous êtes trop modeste. Le chien, avouez au moins qu'il est indivis... C'est vrai,
Dans la bruyère, on aurait juré un chevreuil.
« La voiture de monseigneur !» cria du seuil un laquais de grande mine. Ce ne fut qu'alors qu'on s'aperçut de l'absence de Joviac, qui ne rejoignit qu'à la station, fort débraillé, ayant perdu sa montre, son épingle de cravate, jusqu'à ses boutons de manchette, au lansquenet contre son porte-carnier, dans un kiosque du bois.
« Hein, très zèbre !» dit-il en narrant sa culotte au baron, qui, tout ému, s'informait s'il n'avait pas été victime de quelque rabatteur de grand chemin.
« Croiriez pas ? Jamais voulu jouer sur parole ce rossard-là !»